Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es, une émission de l'Alliance israélite universelle présentée par Ilana Siturel. Alexandre Adler, bonjour.
Bonjour.
Alors, les auditeurs ont eu le plaisir de découvrir chaque jour une citation qui a compté pour vous. Et bien sûr, ce parcours de texte est très éclectique et ça n'a étonné personne venant de vous, Alexandre Adler. La Bible, Vassili Grossman, Spinoza, Einstein, David. On a retrouvé des héros qui ont rythmé notre émission que nous avons fait ici même ensemble.
À part la Bible, quand même, ils ont un point commun, c'est que tous ces textes ont été écrits par des juifs. En ce qui concerne l'auteur du Deutéronome, nous allons laisser ça à nos auditeurs.
Alors, ces héros, donc, ils ont rythmé nos dimanches quand nous faisions ensemble ce parcours dans l'histoire du judaïsme. Et ensuite, la prolongation géographique que vous avez entamée avec Alexis Lacroix. Ces héros, on les retrouve d'ailleurs aussi, je le signale, dans le livre que vous venez de signer, « Le peuple-monde » chez Albin Michel. Un livre que je recommande aux auditeurs, qui est comme un prolongement philosophique des émissions qu'on a pu faire ici.
Ben, une tentative, en tout cas, oui, une réflexion qui m'est venue petit à petit, en effet, et dans laquelle ces émissions ont certainement beaucoup compté.
Alors commençons, Alexandre Adler, sans plus attendre, par la première de vos citations, Vassili Grossman, « Vie et destin ». Oui, bien sûr, plus tard, il y aurait toutes ces parades, ces fanfares, ces 21 coups de canon, mais tout cela, ce n'était déjà plus la victoire, la vraie, celle des combattants, c'était ce silence dans la nuit, le silence de ses pas sur la neige.
Oui, absolument. Cette phrase, je ne peux pas l'entendre, et vous l'avez lue particulièrement bien, sans être saisi d'émotion. Saisi d'émotion parce que c'est ce passage qui clôt le grand épisode, en fait, l'Iliade, qui est contenue à l'intérieur de ce merveilleux roman de Vassili Grossman, et qui est la bataille de Stalingrad elle-même, qui est ce moment de basculement de l'humanité où, malgré tout et pantelante, l'humanité sera sauvée, en effet, du piège terrible que les Hitlériens lui avaient tendu. Et à ce moment-là, Vassili Grossman, qui a accompagné l'armée rouge dans toute cette bataille, jour après jour, et qui revient à la soirée de sa vie sur cet extraordinaire exploit, cherche une image qui retiennent au fond ce qu'a été le sacrifice des combattants. Et la trouve effectivement dans cette image de la nuit qui est tombée, qui vient envelopper comme dans une réparation les hommes fourbus, épuisés, qui vient aussi, en même temps qu'elle les enveloppe, leur montrer les étoiles, c'est-à-dire un avenir possible, un avenir qui ne sera plus cette longue et difficile tuerie. Et puis, évidemment, à cette image lumineuse, la nuit, les étoiles, s'ajoutent les souvenirs auditifs. Et le souvenir auditif, ce n'est pas, je dirais, un souvenir affirmatif, c'est d'abord une négation. Tout d'un coup, on n'entend plus les orgues de Staline, on n'entend plus les canons qui régulièrement rythmaient de leurs explosions plus ou moins inattendues la vie de chaque heure de cette bataille. Tout d'un coup, le silence est revenu. Et à ce moment-là, Vassili Grossman, qui certainement a vécu ce moment-là, se lance et il dit, bien voilà, ce silence-là, c'était la vérité de cette bataille, la vérité de cette fin de la guerre, à laquelle on ne peut opposer, évidemment, toute cette rhétorique creuse, ces fanfares, ces parades, ces décorations qu'on a collées sur les poitrines de ceux qui ont survécu, non ? Tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'était ce moment-là, ce moment du silence, parce que là, la victoire était dans la vérité. C'est ce silence de la victoire. Que la victoire soit silence, et non plus proclamation grotesque, gonflette, mais au contraire, ce recueillement devant le sacrifice des uns, l'exploit des autres, et l'espoir d'une vie qui recommence. Ce silence de la victoire, en russe, je tichina pabiede. Et c'est un mot que j'ai très profondément à l'esprit, parce que pour moi, bien sûr, il évoque le sacrifice de ces combattants russes et de toutes les nationalités de l'Union soviétique qui ont à ce moment-là effectivement sauvé le monde. Mais il me fait aussi penser à ce silence qui s'abat sur ce qui reste encore du ghetto de Varsovie, de l'Umschlagplatz, là où, au même moment, ou quasiment à quelques secondes près, les combattants du ghetto partaient les uns après les autres pour une mort certaine. Ce silence aussi de tous ceux qui ont été libérés dans ce que Primo Levi appelait la trêve avec tellement d'opportunités. Car l'ouverture d'Auschwitz, le retour à la vie, ce n'était qu'une trêve. Ce n'était qu'une trêve et l'espoir peut-être que la vie serait sauvée. Alors je crois à la fois profondément que la vie vaut la peine d'être vécue, qu'elle doit être sauvée. Et je la pense aussi prise dans cette nuit, dans ce silence, dans cette incertitude où l'homme est son avenir. Et c'est pourquoi, quand vous m'avez demandé les citations, j'ai tout de suite pensé à Vassili Grossman, qui est probablement l'écrivain dont je me sens le plus proche, même si ce n'est pas le plus grand écrivain de la littérature russe. Il a voulu imiter Tolstoï, il y est parfois parvenu maladroitement, mais à certains moments, eh bien, les sommets auxquels il atteint sont très supérieurs à ceux que Tolstoï a pourtant su escalader un siècle plus tôt.
Alors la vie, Alexandre Adler, on va la retrouver dans la deuxième citation. « Vois, j'ai mis devant toi le bien et le mal, et tu choisiras la vie. Oui. » Quel sens vous donnez à la vie dans cette deuxième citation? C'est peut-être pas tout à fait le même.
Bien oui, l'auteur du Deutéronome a voulu ici, certainement, parce qu'il était en regard avec le texte de la Genèse, proposer justement une autre issue que celle du bannissement d'Adam et d'Ève du paradis, dont on sait qu'ils ont été chassés pour avoir voulu connaître la connaissance du bien et du mal. Ils ont voulu goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je dis bien l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et pas du tout l'arbre de la connaissance en général, comme on le croit. C'est le fait que l'homme ait voulu, à un moment donné, précipiter sur la réalité son propre jugement sur le bien, sur le mal, sur la dynamique même de l'existence, qui est le péché que Dieu, effectivement, reconnaît comme tel et qui est à l'origine de son bannissement du jardin d'Éden. Mais tout d'un coup, dans ce texte du Deutéronome, dans lequel Moïse se trouve confronté véritablement à la véritable transmission à travers son expérience propre de son dialogue particulier avec le divin, mais aussi dans cette expérience extraordinaire qu'a faite le peuple d'Israël en traversant pendant 40 ans le désert, il lui dit « Vois, j'ai mis devant toi le bien et le mal ». Et alors donc, cette fois-ci, de nouveau, ce choix est exactement celui que Ève a cru faire de manière erronée, en jugeant peut-être trop rapidement et à tort et à travers où était le bien et où était le mal. Et là, non, cette fois-ci, c'est l'inverse. Dieu, cette fois-ci, est en train d'organiser le processus de réhabilitation du monde, de réhabilitation des hommes. Et il demande, par conséquent, il demande à Moïse, « Voilà, j'ai mis devant toi le bien et le mal, mais maintenant, tu peux le choisir, parce que la Torah est là. Et tu ne choisiras pas le bien, comme on pourrait croire, parce que ce serait une conclusion un peu sulpicienne, on dirait, pensant sans hostilité à nos frères chrétiens. Une vision un peu moralisante, simple. Non, tu choisiras non pas la vérité, parce que cela, c'est un travail incessant qui repose sur l'étude et l'incorporation jamais terminée de la Torah, tu choisiras la vie, Chaim. Et donc ce choix de la vie qui est lié à la recherche du bien et du mal, c'est le choix que fait le judaïsme, ou dire oui à la vie. Et ce texte qui prépare à l'entrée dans la Terre Sainte, et également il y a cette célèbre invocation, « Sois un homme » qui en yiddish viendra « Zaya Mensch » et qui est le cœur même, je dirais, de toute la transmission juive. Ce texte est pour moi le texte véritablement de bascule, le plus incroyable et peut-être le plus brûlant de toute la Torah. C'est de là, à mon avis, que découle pour le judaïsme sa vocation nouvelle, qui est, grâce à la réception de cette Torah, de transformer le monde. Et de transformer le monde non pas dans le sens de la vérité, seul Dieu la connaît, mais de la vie, qui est le chemin vers la vérité.
Et peut-être justement dans un chemin qui ne soit pas manichéen,
et non,
sort du bien et du mal.
Le bien et le mal, ils existent. Il est très très important de le savoir. Il n'y a pas d'identité du bien et du mal. Il n'y a pas de par-delà le bien et le mal, comme le pensait ce pauvre Nietzsche, probablement sous l'effet de sa syphilis. Non, il y a un bien, il y a un mal. En revanche, personne n'est en mesure d'opiner sur le bien et le mal comme cela, directement. Personne ne peut avoir cette prétention de se substituer à Dieu. Ce à quoi on peut parvenir, c'est à une vérité approchée à travers l'étude, la discussion infinie ce qu'on va appeler le pilpoul, c'est-à-dire toute cette discipline talmudique qui nous a été inculquée non sans difficulté par l'horrible accumulation des pertes et des défaites, dont la chute du Temple de Jérusalem. Mais ceci nous permet d'approcher de la vérité avec l'infini respect que l'on a pour la parole de Dieu. Mais en effet, il ne s'agit pas ici d'invoquer le bien ou d'invoquer le nom de Dieu en vain. C'est le premier commandement des 10 qui nous ont été livrés. Car invoquer le nom de Dieu en vain, c'est se substituer à sa parole. Or, le judaïsme ne se prononce pas à la place de Dieu. Il sert la parole de Dieu lorsque celle-ci a été suffisamment claire. Et ce travail d'élucidation, c'est l'étude. Donc, évidemment, c'est une prise de distance extraordinaire par rapport aux maîtres de vérité qui, jusque-là, ont dominé le discours de la religion. Le judaïsme, en ce sens-là, donne son congé à ce type de religion. Et d'ailleurs, pour bien souligner trois fois les choses, lorsque, à Kippour, on lit la paracha, c'est-à-dire l'extrait de la littérature prophétique que l'on veut faire cadrer avec ce moment particulièrement solennel de l'année, c'est celle de Jonas. Jonas qui est appelé à travers son naufrage par Dieu, qui le prend quasiment par la peau du cou, et qui l'oblige à prophétiser sa parole. Mais à un moment donné, Jonas finalement va à Ninive, il proclame la parole de Dieu, mais il appelle ensuite sur les habitants de Ninive, sur les Assyriens, un châtiment terrible parce qu'ils ne comprennent décidément rien. Et là, Dieu arrête sa main parce qu'il est en train de demander le châtiment que Dieu ne lui donnera pas. Il dit « Mais comment veux-tu que je punisse ces gens qui ne connaissent pas la différence entre leur gauche et leur droite ?» Quelle leçon pour aujourd'hui. Quand nous pensons à nos amis islamistes, quand nous pensons à leur infinie bêtise, à leur insondable cruauté, et que nous avons l'intention de nous dire plus civilisés, bah, la parole de Dieu est là pour dire « Voyons Jonas, tu veux inculquer la vérité à des gens qui ne savent pas encore la différence entre leur droite et leur gauche ? Commençons déjà par cela. » Eh bien, cette invocation de la modestie de la parole, qui s'inscrit dans une parole supérieure et dont on sait qu'elle est imprononçable, c'est peut-être ça qui fait la force décapante et encore aujourd'hui extraordinaire du monothéisme juif.
Troisième citation, Albert Einstein.
Alors Einstein, évidemment, c'est mon auteur préféré. C'est aussi mon personnage préféré. Je pense que c'est celui au XXe siècle qui s'est approché le plus de la dignité des grands prophètes d'Israël. Il a été à la fois un des plus grands savants de son temps. Il s'est d'ailleurs trompé, comme tous les grands savants. Il était tout à fait prêt à l'admettre. Mais il a quand même révolutionné notre conception du monde d'une manière radicale. Mais cela n'aurait aurait pas suffi, d'ailleurs. Il s'est également déclaré, lui qui était un bourgeois allemand, finalement reconnu par les siens dans un pays apparemment calme et prospère, sioniste, ce qui n'était pas du tout si courant en son temps. Et il a clairement proclamé ce sionisme à une époque où ça ne pouvait lui valoir que des ennuis, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et par la suite, eh bien, il a continué ce chemin extraordinairement inflexible, à la fois à la recherche d'une utopie qu'il n'a pas atteinte, celle d'une équation unitaire de champ qui aurait réunifié la nature, mais aussi d'une réconciliation pleine du peuple d'Israël et de l'histoire à travers précisément le sionisme. Il est vrai que Ben Gurion s'est épongé le front de soulagement lorsque Einstein lui a répondu par télégramme qu'il ne pouvait pas accepter le poste de chef de l'État d'Israël naissant. C'était heureux à la fois pour Einstein et pour Ben Gurion, parce qu'il adorait Princeton. Mais enfin, une telle carrière, un tel parallélisme entre un engagement juif sans peur et sans reproche et un engagement pour la science qui a amené de telles conséquences dans la vie courante de tous les jours, eh bien, c'est quelque chose qui, moi, me fait toujours mon admiration. Je dirais presque autant que l'héroïsme de Vassili Grossman.
Alors, la phrase que vous avez choisie concerne non pas l'État d'Israël, mais la science. Il arrive à Dieu de ruser avec les lois de l'univers, mais il ne triche jamais.
Oui, elle est un peu plus nuancée que celle que l'on cite le plus souvent, « Dieu ne joue pas au dé ». Ça, c'est peut-être la première phrase que soit venue à l'idée d'Einstein, qui était évidemment scandalisé par la découverte de la physique quantique, c'est-à-dire d'un monde dans lequel à la fois deux théories, la théorie corpusculaire et la théorie ondulatoire, devaient être conçues non pas en opposition exclusive, mais en addition, et dans laquelle il existait une incertitude statistique sur le chemin de chaque électron. Bref, tout d'un coup, le déterminisme en prenait un coup terrible. Alors donc, il a commencé par dire « Mais non, Dieu ne joue pas au dé, il nous échappe quelque chose ». Et puis ensuite, La formule peut-être plus subtile à laquelle il s'est arrêté et que j'ai retrouvée dans la grande biographie que son ami et collègue Abraham Pais lui a consacrée, elle est la suivante. Il dit « Oui, la nature peut, la nature et donc Dieu peut, avec les lois de la nature, s'amuser à nous faire des surprises, donc nous tendre des pièges quasiment. » Et la physique quantique à laquelle qu'il avait à l'esprit en était un. Mais en même temps, Dieu ne triche pas, ne change pas les règles en cours de partie, comme font les tricheurs. Et donc, il y avait quand même, à la fin des fins, une loi de la nature. Et peut-être va-t-on, un de ces jours qui n'est pas si lointain, non pas arriver à cette équation unitaire de champ à laquelle Einstein était si attaché, mais à cette théorie dite du tout qui arrivera à unifier la force de la gravitation d'un côté, et puis les trois autres, quand ils sont en voie d'unification, l'électromagnétisme, la force faible et la force forte à l'intérieur du noyau atomique. Et cet espoir d'Einstein, en tout cas, cet espoir qui est toujours de discuter face à face avec Dieu pour livrer la vérité, toute la vérité, c'est pour moi un des témoignages les plus émouvants de l'être juif.
Et je renvoie d'ailleurs à ceux qui veulent en lire davantage sur ce thème à votre livre Le Peuple Monde, où vous consacrez justement un long passage à Einstein. Et j'ajoute d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est de l'ordre de la rumeur, que Niels Bohr, qui donc était lui adepte de la musique quantique, aurait répondu à Einstein à ce moment-là. Einstein, qui êtes-vous pour dire à Dieu ce qu'il doit faire ?
Alors évidemment, j'ai beaucoup de mérite parce que Niels Bohr est un de mes cousins éloignés. La branche des Adler de Copenhague sont des cousins des Adler de Bohême, dont je proviens. Et l'ancêtre direct de Niels Bohr est venu de Prague à Copenhague, milieu du XIXe siècle. Mais enfin, malgré cet attachement que j'ai à la figure de Niels Bohr, que je considère lui aussi comme un immense personnage, beaucoup plus encore par sa grandeur morale que par son intelligence, ils ont eu le prix Nobel Einstein et Bohr à deux années successives, 1925 et 1926. Je préfère quand même l'innocence extraordinaire d'Einstein. Et je pense que ce respect profond que Bohr avait pour les mystères de la nature et la grandeur de Dieu, qui aussi fait partie de la piété juive à l'état pur, quand bien même, et j'en suis peut-être plus proche par ma généalogie, je lui préfère la luminosité spinoziste d'Einstein.
Alors Spinoza, je rebondis, quatrième citation, « Le châtiment de l'insensé, c'est sa propre vie ».
Voilà une phrase de Spinoza, il y en a d'autres versions d'ailleurs, qui est une des plus profondes. C'est évidemment l'histoire de la loi immanente de la morale qui fait que les transgressions, qui sont des transgressions des lois mais aussi des lois de la nature, trouvent en elles-mêmes leur propre châtiment. Il n'est évidemment pas peut-être dans la durée humaine, mais dans la durée de l'expérience humaine des générations, certainement. Le châtiment de l'insensé, c'est sa propre vie. Je la trouve extraordinaire à la fois par la rondeur de cette phrase, sa brièveté coupante, et puis cette espèce de sourire permanent qui est celui que les Juifs, particulièrement les Juifs d'Espagne et du Portugal, et particulièrement les Maranes, ne pouvaient qu'opposer à la folie à laquelle ils étaient confrontés. Alors oui, effectivement, le châtiment de l'insensé, le châtiment de l'Inquisition, c'est la propre vie qu'il est en train de faire au peuple espagnol et de proche en proche à toute l'Europe, puisqu'elle déclenchera la révolte de la Hollande. Ce moment héroïque dont mon épouse Blandine Kriegel évoque l'importance fondatrice pour la démocratie européenne, Spinoza voyait cela, il voyait les comportements insensés auxquels des religions fanatiques donnaient lieu. Et il lui opposait cette espèce de sourire indestructible de l'éternel Maran, mais d'un Maran qui a une profonde confiance dans la gloire d'Israël. Et cette ironie spinoziste, elle me rappelle aussi le sourire de mon père.
Et une autre manière de le dire ailleurs dans l'éthique, il ne fait aucun doute que la vertu est à elle-même sa propre récompense et le vice à lui-même son propre châtiment.
Voilà, c'est évidemment une réfutation de tous les châtiments divins, de l'enfer, des menaces de toute nature à travers quoi les cagots des religions révélées essaient de créer des mécanismes de peur. Or, pour Spinoza, vous le savez, la peur est une passion triste, est une passion destructrice. Et seule la confiance, la émouna, on dirait en hébreu, mais c'est exactement ce qu'il avait à l'esprit, la ferveur, sont de nature à élever l'homme et à lui permettre de réaliser toutes les potentialités dynamiques qu'il a en lui.
Et enfin, Alexandre Adler, dernière citation, elle est extraite des cantiques de David, des psaumes de David. L'Éternel est un berger, il me conduit dans de verts pâturages. Dussé-je traverser la vallée de la mort, je ne craindrai rien.
Alors c'est un des psaumes les plus connus. Il a eu un itinéraire extraordinaire à la fois dans la théologie protestante, qui en a fait un très large usage, mais aussi dans la tradition d'Israël elle-même. Pour moi, c'est le plus beau de tous les psaumes, car il n'est pas pris dans cette déploration et dans cette espérance traversée des tragédies de la vie, comme le sont beaucoup de psaumes. Celui-là, au contraire, évoque la mort, et il évoque non pas justement le triomphe de la mort, mais au contraire le caractère indestructible du lien qui relie le fidèle de la religion d'Israël à son Dieu. L'Éternel est mon berger, c'est-à-dire que les hommes, en fait, acceptent d'être conduits, et pas seulement de faire l'histoire, d'être dans l'histoire, de la supporter, de la porter avec eux. Et cet Éternel qui est notre berger nous conduit à travers la vallée de la mort. Bien sûr, je pense à la Shoah, je pense à beaucoup d'autres expériences traumatiques de l'histoire du peuple juif que nous avons traversées. Et malgré cela, eh bien, nous n'avons rien à craindre. Nous n'avons rien à craindre de cette mort, à la fois dans sa représentation courante, telle que nous la connaissons, de notre vivant, et encore moins dans l'au-delà. Car l'Éternel nous conduit à travers cette vallée de la mort vers des pâturages toujours verts. Et alors, cette espérance d'Israël, elle est extraordinaire parce que j'y vois à la fois une foi active et une soumission à l'être, qui est quelque chose de très fort. Dans l'arbre séphirotique, il y a deux séphirotes parentes, Netzach et Hod. Netzach, c'est la victoire, le triomphe, la victoire d'Israël. On pense à tous ces grands moments de triomphe, à la fois de la vie et de notre peuple, ces grands moments d'affirmation. Mais Hod, c'est la même racine que Toda, merci, Toda Rabba, tout le monde connaît ça en hébreu. C'est l'acceptation du monde. C'est ce côté peut-être plus ombrageux aussi, et en tout cas plus compliqué du rapport que nous avons à Dieu, et qui est que nous acceptons la bénédiction de Dieu en nous, nous acceptons qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. C'est cela que ce psaume exprime à mes yeux.
Alexandre Adler, merci. La semaine prochaine, mon invité sera Armand Abécassis. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site de RCJ et sur le site de l'Alliance Israélite Universelle. C'était « Dis-moi qui tu cites, je te dirai qui tu es », une émission de l'Alliance Israélite Universelle présentée par Ilana Sicurel.